voulez-vous valser, trompère, tout comme au bon vieux temps, quand vous aviez 20 ans, sur un air qui vous rappelle combien la vie était belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère?
Nous vieillirons sur le dance floor.
Sur un air qui nous rappelle combien la vie était belle pour votre anniversaire. Voulez-vous danser, grand-mère?
Février va passer et je n'aurai rien fait. Rien, si ce n'est danser et se maintenir en vie. L'un va de pair avec l'autre. Oubliez les résolutions, les belles envolées, les chaudes aspirations. On la ferme. Les guiboles feront le boulot. Elles, au moins, savent garder pied sur terre. Mesdames, messieurs, flottons dans une eau incolore, nous vieillirons sur le dance floor.
We'll be right back.
tu m'as surpris en train de sourire. En décembre 1963, alors qu'un long hiver s'annonçait en Nouvelle-Angleterre, la compagnie d'assurance State Mutual, basée à Rochester dans le Massachusetts, demanda au graphiste Harvey Ball de concevoir une campagne de bonne humeur, destinée à gonfler le moral des travailleurs.
On n'est pas là pour parler dans une discothèque.
Exact.
Je veux dire, avant, il avait vous rappeler, François Sagan, les petites tendresses de l'aube, etc., etc. On se murmurait les petites confidences, non pas sur l'oreiller, mais devant le verre. Maintenant, c'est fini. Maintenant, on danse. Beaucoup de gens sont ravis d'avoir, de ne pas avoir à parler.
Ball dessina deux points au-dessus d'un arc inversé, sur un fond jaune vif évoquant un soleil radieux. La société imprima initialement 100 badges, mais leur succès fut tel que Rochester fut bientôt envahi par ces caricatures de gaieté vides de sens. Pour la réalisation de ce qui deviendrait le symbole le plus fameux du monde, aux côtés de la croix et de la svastika, Ball reçut $45. En septembre 1970, deux frères du nom de Bernard et Murray Spain cherchaient une manière de se faire de l'argent facile. Spectateurs d'une Amérique embourbée au Vietnam et déchirée en son propre sein par la contestation, le conflit générationnel et l'agitation raciale, Bernard tomba un jour sur une vieille campagne publicitaire où une image résumait parfaitement les réactions nixonistes aux années 60. Il décida donc de mettre le smiley sur un badge, tandis que Murray trouva le slogan « Have a happy day » qui se transforma bientôt en « Have a nice day », rappelant l'optimisme aveugle d'autres mantras comme « Turn that from upside down » ou « A day without a smile is like a day without sunshine ». La campagne « Have a nice day » balaya un pays qui tentait désespérément d'oublier les années 60. Et ressemblait chaque jour un peu plus à l'âge de cristal, Stepford Wives et Zombie. Les frères Spain s'associèrent à N.J. Slater, fabricant de boutons new-yorkais, et firent du visage de Smiley le plus fort engouement de toute l'histoire des engouements, reproduisant l'épidémie de Rochester à un niveau national. En 1972, plus de 50 millions de badges Smiley avaient été produits, sans compter les produits dérivés sur lesquels figurait le symbole. Mais alors que le smiley zombifiait le pays, que ce sourire vide et bienheureux assommait la population tel un puissant narcotique, un certain nombre de musiciens surent reconnaître le petit démon jaune et vicieux qui se cachait derrière. Après des siècles de mensonges, de trahison, cela faisait longtemps que sourire, poignée de main et autres tapes dans le dos ne scellaient plus le moindre contrat social. Au contraire, on s'était mis à redouter ces gestes qui apaisaient provisoirement la rage et le ressentiment avant l'inévitable retour de bâton, fait de rétraction et de coupe claire. Pour les Afro-Américains du début des années 70, le seul vestige des espoirs de la précédente décennie subsistait dans le sourire du chat d'Alice au Pays des Merveilles, soit la substance même de ce qui s'était depuis longtemps dissipé, comme par enchantement, réduit en fumée, comme les ghettos de Watts, Détroit, Pittsburgh. Plutôt que de retourner leur mou renfrogné et de sourire à contre-cœur, les artistes soul de cette époque s'engagèrent donc dans une frappante conversation sur ce thème des smiling faces, véritable champ de mine d'images qui escroquèrent les gens à l'aide des siècles entiers de caricatures, les visages rayonnants de l'establishment progressiste blanc et de ses promesses de droits civiques et d'intégration. Le gang des coups tordus de Nixon et bien sûr le smiley lui-même. Il s'agit en effet d'une image beaucoup plus complexe, beaucoup plus troublante, pleine de haine de soi et qui vise plusieurs cibles. Qu'il ait constitué le thème central d'une chanson ou qu'on laisse simplement croiser au détour d'une phrase l'air de rien, le trope des smiling faces prit place comme une référence universelle au sein d'une des musiques les plus tendues jamais produites. À travers cette incroyable succession de disques sol qu'ils utilisèrent, il élabora l'expression ultime de la paranoïa et éleva du même coup la tradition de l'answer song, bien au-delà du kitsch. Mort à la mère de disco, longue vie au rock, suicidez-vous, balancez-vous d'une putain de falaise, plantez-vous des clous dans le crâne, devenez un robot et rejoignez l'équipe de Disneyland, faites une overdose, tout ce que vous voulez, mais n'écoutez pas cette pourriture disco. J'ai vu des vrais gens vivantes se transformer en chiens à cause de cette merde en boîte, et vice-versa. La disco représente tout ce qui ne va pas dans notre civilisation. Allez vous instruire. Où étais-tu lorsque les lumières se sont éteintes?
Je suis Peter, le robot de Jupiter Pâle, une planète là-haut. Je fascine les foules, mes chansons les défoule en laser disco vidéo. Je suis toujours dans la lune et mes amours à la une s'étalent dans les journaux.
Marchandise est aussi identifiable que les badges Smile et elle est tout aussi capitale que. Malgré le glamour du Studio 54 et les tabous brisés par le demi-monde new-yorkais, malgré les prouesses des DJ et les techniques de production révolutionnaires adoptées par les remixeurs et autres magiciens des synthétiseurs, le fond de l'expérience proposée par la disco grand public n'en restait pas moins fort prosaïque. John Travolta en train de vous soulever par la taille, Donna Summer et ses 23 orgasmes en une seule session. La disco consistait plutôt à entendre YMCA six fois dans la même soirée au Rainbow Room de l'Holiday Inn de Cedar Rapid Iowa, en exécutant les chorégraphies aux côtés de VRP itinérants. Sortie de son contexte, la disco n'offrait absolument rien de ce qu'elle promettait. Aussi, son splendide et éclatant vernis finit-il par se craqueler sous les coups de cette abrutissante banalité. La disco traditionnelle avait tourné le dos à ses valeurs originelles. Elle s'orientait vers l'appât du gain, éludant les problèmes de race et, jusqu'à un certain point, de sexe, et laissant des légions de musicos à dessous plagier la somptuosité des quelques vrais génies du genre en espérant profiter de leur richesse musicale. En cela, elle incarnait parfaitement le passage du progressisme qui avait largement dominé les années 50 et 60 au néoconservatisme sur lequel se fonde l'axe anglo-américain depuis les années 80. We'll be right back. le dance floor, au moins, la disco incarnait une communauté, quoique dénuée de la naïveté utopique des années 60. Ainsi piégée sous les phares d'un renversement culturel imminent, avec l'impression de danser pendant l'apocalypse, ou presque, la disco ne pouvait qu'attirer les punks qui, vers la fin des années 70, s'aventurèrent donc sur les pistes en non-initiés, tels des vautours, en quête d'une nouvelle culture d'avant-garde.
Thank you.
lorsqu'en 1978, la disco enfila son pagne et se peinturlura le visage pour devenir, disons-le franchement, un peu crétine, il y eut un club qui décida de maintenir en vie l'idéal originel d'une discothèque conçue comme messe du samedi soir. Puis, lorsque 2 ans plus tard, la disco se retrouvera rossée, dépouillée et laissée pour morte au bord de la route, ce même club réussira à garder la foi, refusera de laisser le genre mourir et lui rendra la santé. Ce club s'appelle le Paradise Garage. Et bien que son nom n'ait pas bénéficié du même prestige que celui du Studio 54, les experts de la vie nocturne, comme ceux de la dance music, le vénèrent avec une dévotion semblable à celle d'un fidèle pour un saint. Le fait de danser renferme un message. Ce que vous ressentez, les muscles que vous utilisez, mais seuls quelques disques peuvent faire ça. Mettons que je sois en train de jouer des chansons sur la musique. I love music des OJ. Musique de Al Hudson. Et que je vais enchaîner avec Weekend, qui est un morceau sur le fait de sortir pour trouver quelqu'un avec qui passer la nuit. Ça n'a rien à voir. Si vous êtes en train de danser, que vous êtes vraiment concentré sur les paroles et l'atmosphère, et que ce morceau arrive, ça pourrait être bien dans l'absolu. Mais dans ce cas précis, ça n'a pas de sens, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est passé juste avant. Donc moi, je marque une courte pause, j'envoie un effet, quoi que ce soit qui puisse vous permettre de comprendre que commence un nouveau paragraphe, que tout cela n'est pas une longue phrase continue. Larry Levan. Si Levant tentait d'un côté de devenir le O. Henry, sinon le Homer des platines, il cherchait également à provoquer le plus total abandon, à déclencher d'explosives épiphanies d'énergie pour faire voler en éclats la structure, comme s'il rythmait un récit. Certains de ces fameux tics, stopper un morceau en plein milieu, mixer des sons d'accidents de voiture, pouvaient presque passer pour des transpositions de la dissonance ou du Larsen punk dans le domaine du DJing. les vannes passaient ce moment que Roland Barthes identifie sous le terme du punctum, cet instant où surgit subitement la clairvoyance, où tout devient clair, le coup sec de la canne du maître zen sur la nuque, le contact divin qui survint après le rituel du derviche tourneur. Sur lequel très peu de gens écrivent et que très peu de gens comprennent, alors qu'elle constitue une des dynamiques les plus importantes de la culture populaire. C'est le fait qu'une génération puisse se reconnaître elle-même dans la musique. Colin Newman. La naissance même de la disco a résulté de la fusion des pulsions contradictoires. L'exclusion ou l'inclusion, le glamour ou le délabrement, la légèreté ou la gravité, se vendre ou tout plaquer, s'engager ou se retirer, être grave ou superficiel. La disco tenait tout à la fois de la communauté et du plaisir individuel, de la sensation et de l'aliénation, de l'orgie et du sacrifice. Elle promettait de la délivrance et de la contrainte, la libération et le repli, la frivolité et la ruine. La disco était tout à la fois utopie et enfer. Le 29 janvier 1977, on dansera la disco lors du bal d'investiture du président Carter. Pour ce qui sera le tout premier concert disco à accompagner une investiture présidentielle. La Portable Pitch, l'ensemble disco mobile de Scott Woodside et Barry Chase, fera le voyage d'Atlanta à Washington, à l'invitation du comité de soutien à Carter. En plus de la danse disco, la soirée sera également animée par deux danseurs disco déguisés en cacahuètes qui se remueront au son du Bicentennial Disco Mix, sorti l'an dernier chez Private Stock Records. Je ne sais pas si c'était l'enfer ou le paradis. Mais en tout cas, c'était merveilleux. Mes amis DJ sont tous complètement hétéros. Ce sont des gros blancs, avec des grosses barbes. Et l'esthétique qu'ils proposent est rock. Ils se saoulent, ils fument des joints, et ils s'éclatent sur cette musique. Ils sont beaucoup plus décadents que les gays d'aujourd'hui. Daniel Wong. nous vieillirons sur le dance floor.
Je me demandais si une fois le bébé endormi, on ne pourrait pas faire un saut en voiture jusqu'à San Angelo. Écouter de la musique quelque part, ou même peut-être aller au cinéma.
Oh, à part le week-end, on va dormir de bonne heure par ici.
Les absents ont toujours tort. Il est donc trop tard pour rejoindre le dance floor. Encore une bonne chose de faite que cette heure à la fête. Une partie de partie, la voilà donc remise. Le pouce-disque de service nous a joué dans l'ordre. House de raquettes, massage spa, Don Cherry, Lio et Jackie, Tricatel et NC, Barry Adamson, Affair of the Earth, Moondogs, The Three Sons, David Meyer, Jérôme Sydenham et Denis Ferrer, Moacir Santos, The Wooden Tops, Paul Whiteman. On se retrouve très bientôt sur le dance floor pour y vieillir inexorablement, mais sur le dance floor, on y vieillit plus lentement. Et si vous êtes riche et blasé, faites un don à votre radio préférée, www.graphite.net. Graphite 94.9, restez à l'écoute, il se passe bien des choses de ce côté de la radio.